Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mégaphone. Nous vous proposons aujourd'hui une émission un peu spéciale puisque nous allons parler de nous, de Jet, mais aussi et surtout des 750 autres radios associatives dispersées aux quatre coins de la métropole et des Outre-mer. Nous sommes en effet collectivement aujourd'hui en mode alerte. Le projet de loi de finances, dit PLF 2025, actuellement en pleine négociation au Parlement, prévoit des coupes budgétaires drastiques qui risquent d'impacter gravement les radios associatives. Le ministère de la Culture se voit octroyer des moyens constants, mais il a prévu de supprimer spécifiquement 10 millions d'euros d'aide aux radios asso, soit une baisse inédite de 30% qui menace directement les emplois et la survie d'une bonne partie d'entre elles. Mégaphone vous propose donc de faire le point, de manière, assumons-le, quelque peu partiale, sur cette situation, avec Sylvain Delfaux, directeur de Radio Laser à Rennes et vice-président du syndicat national des radios libres, dont Jet est membre. Une interview réalisée par Quentin Beltoise en service civique à la rédaction de Jet. Bonne écoute.
Bonjour Sylvain Delfaux, vous êtes le coprésident de l'association Les Locales et un membre du SNRL, le syndicat national des radios libres. C'est quoi les radios libres ?
Des radios associatives sur les territoires avec une loi qui existe depuis 1986 qui fixe ce qu'on doit faire pour la communication sociale de proximité, c'est-à-dire ce que font toutes les radios, les 750 radios associatives en métropole, en outre-mer, dans les zones rurales, dans les quartiers de politique de la ville, c'est-à-dire donc accueillir des services civiques, par exemple, faire de l'information locale du dernier kilomètre, être en capacité de faire de l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire expliquer comment on produit de l'info, comment faire attention à ce qu'on reçoit sur son téléphone portable pour les plus jeunes et les moins jeunes. Donc en fait, on a une mission sociale de proximité, vraiment, on est presque un service public de l'information locale et on est des acteurs engagés dans l'économie sociale et solidaire. On a presque 3000 emplois dans notre secteur, donc dans nos radios associatives. Donc voilà, en résumé, ce que c'est une radio associative libre. C'est beaucoup plus que ça, hein, bien sûr, parce que c'est au quotidien qu'on agit sur les territoires, qu'on ouvre la porte aux gens en situation de handicap, aux personnes qui veulent devenir journalistes, animateurs, animatrices radio. Donc vous voyez, on est actifs sur les territoires.
Donc vous parlez de service public, enfin de presque service public de proximité. Donc pour ça, vous bénéficiez du FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots aussi qu'est-ce que c'est comme aide et quelles conséquences vont potentiellement avoir les baisses de budget prévues dans le projet de loi de finances de cette année ?
C'est en gros un deal qu'on a avec le ministère de la Culture et l'ensemble des radios pour dire, voilà, vous êtes une radio associative, vous êtes sur un territoire de 30, 40, 50, 60 kilomètres autour de votre point d'émission, plus pour les radios qui ont 2-3 fréquences, mais en tout cas, vous êtes sur un secteur. Donc, vous allez faire de l'info locale, vous allez accueillir les stagiaires, vous allez faire de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information. Et en échange, on va vous donner une aide, un fonds. En l'occurrence, on vous dit, mais attention, vous ne ferez pas de pub à plus de 20% de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une radio commerciale. Donc, en fait, le deal, il est vraiment, on ne fait pas concurrence aux radios commerciales. Et il y a un écosystème qui fonctionne, c'est-à-dire des services, des radios du service public, donc Radio France et les antennes locales France Bleu. Il y a les radios commerciales qui font de la publicité, donc sur des secteurs. Et nous, radio associative, on a donc un service public presque local, en tout cas, ou micro-local, comme vous le souhaitez. Donc c'est ça le deal de départ. On est vraiment contraint dans un secteur où on est des radios locales, associatives, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on a des salariés dans nos radios. Donc on a les mêmes charges que les autres, mais on a un cahier des charges beaucoup plus contraint. Et en plus, chaque année, on envoie non seulement nos comptes certifiés par un expert comptable, donc toutes les associations ne le font pas, et en plus, on envoie un bilan d'activité où là, c'est souvent des gros dossiers qui font 600 pages, qu'on envoie pour prouver tout ce qu'on fait. Et ça, c'est important, c'est d'expliquer que on est contrôlé aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent public qui est dépensé depuis des années comme ça. Non, non, on est hyper contrôlé par le ministère de la Culture. D'ailleurs, le ministère de la Culture, en off, soutient notre souhait de ne pas baisser ce fonds de soutien à l'expression radiophonique. Eux nous défendent plutôt, en tout cas les services de la DGMIC. Donc c'est un acronyme que je ne vais pas situer, mais c'est en gros c'est une direction des médias à l'intérieur du ministère de la Culture qui souhaite vraiment, enfin qui dit, bah voilà, on ne comprend pas pourquoi il y a une baisse avec toutes les actions que vous menez.
Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les conséquences potentielles?
Je pense que toutes les radios sont impactées en milieu rural, en ville, dans les zones urbaines, en métropole, mais aussi en Outre-mer. Il faut vraiment prendre conscience qu'on est presque 3000 salariés, 750 radios, et donc ça veut dire coût budgétaire aussi énorme, coup de guillotine, 30% de ce budget qui représente plus de la moitié souvent de notre budget. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute peut-être un licenciement par radio. Donc on imagine ça peut faire 700, 800, 1000 licenciements peut-être en France, des contrats qui ne sont pas renouvelés, des actions qu'on ne mènera plus dans les écoles. Enfin, vous imaginez que c'est un effet domino de dingue. Et il faut le savoir aussi qu'il y a des risques, et pour les radios aussi commerciales, qui se rendent compte que c'est peut-être pas si bien que les radios associatives perdent un fond, puisque peut-être qu'il y a des radios qui souhaiteront aller sur la publicité. On ne sait pas encore. On a des difficultés à imaginer ce que ça va induire, hein, cet effet domino. Donc l'effet est très très grave pour l'économie, pour l'éducation aux médias, à l'information, pour des zones rurales où de temps en temps cette radio est le seul employeur, le seul vecteur d'information. Donc c'est effectivement un très coup dur même pour le pluralisme des médias, à l'heure où on dit qu'il faut qu'il y ait quand même des acteurs autres que les grosses plateformes et les multinationales. Là c'est un coup dur quand même pour notre secteur.
Enfin, c'est quelque chose qui aurait pu être évité peut-être par un autre fléchage aussi des fonds.
Non, nous on est un syndicat de radio, on n'est pas là pour expliquer au gouvernement qu'ils auraient pu prendre de l'argent ailleurs. En fait, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Nous on dit, ce que vous faites là, ça va engendrer un grand malheur. Si on parle d'unité, on parle vraiment d'unité du vivre ensemble. Là, vous êtes en train de casser encore un des maillons du vivre ensemble. Donc les conséquences seront très graves en termes d'emploi, mais dans les années à venir, sont très graves pour au moment où on dit qu'il y a un sentiment de déclassement, que dans les zones rurales on se sent déclassé. Ben là, vous allez accélérer la chose. Donc, en fait, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. L'argent, ils peuvent. On a un petit budget, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais on est tout petit par rapport à des milliards, des fois, où on fait des économies sur d'autres. Donc, en fait, on ne demande pas de répartition, on ne demande pas de prendre à quelqu'un d'autre, on demande juste de comprendre ce que ça va engendrer et qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de continuer à soutenir nos radios associatives. Parce que nous, on sait faire des économies. On peut nous dire oui, mais tout le monde fait des économies. Non, déjà, non, tout le monde ne fait pas des économies. De nous, ça fait 20 ans qu'on fait des économies. Parce qu'en euros constants, par radio, le fonds n'a pas augmenté puisqu'il y a des nouveaux acteurs et qu'on est face à des charges qui ont augmenté et donc des charges d'emploi, par exemple, parce qu'on a créé de l'emploi, mais aussi sur l'électricité, par exemple, sur l'énergie, sur beaucoup de choses, on sait faire des économies. Donc, c'est pas... Nous, on sait faire des économies. Par contre, une coupe de un tiers de notre budget FSER, ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable, ce n'est pas une économie, c'est vraiment une volonté politique de nous casser, de nous guillotiner.
Juste, je reviens sur ce que vous appelez une volonté politique de vous casser et de vous guillotiner. On était bien sur des instructions, donc dans le projet de loi de finances, d'économie de l'ordre de 12 millions d'euros pour la direction générale dédiée à l'information et aux médias. Et sur ces 12 millions, il y a 10 millions d'économies qui sont demandées directement aux radios associatives.
Oui, bah moi je peux pas vous dire plus que ça. C'est-à-dire qu'effectivement c'est une volonté politique. S'il y avait pas une volonté politique de casser les radios associatives, ça serait parti autrement, sur d'autres lignes peut-être. En tout cas, je vous dis, moi je ne suis pas au gouvernement, c'est à eux de faire ces choix-là. On décide de devenir ministre ou dans un cabinet ou député ou parlementaire, c'est bien pour agir sur les politiques publiques. Donc c'est là qu'il faut faire des choix. Les choix ont été faits, et ben ils sont mauvais pour la cohésion du territoire. On vous le dit, on verra les conséquences, ça sera très grave. Mais en tout cas, oui, là on subit presque la totalité de la baisse et on veut que cette baisse soit annulée.
Et vous parliez de volonté politique, mais pourquoi cibler les radios libres, les radios associatives? Parce qu'elles sont petites? Parce qu'elles prônent la diversité des thématiques que certains qualifieraient de wokistes?
On n'a pas ces éléments, nous, donc on ne pourra pas accuser, ça serait de la délation. En tout cas, il y a quelqu'un qui a décidé un jour, dernièrement, de casser les radios associatives, peut-être même le mouvement associatif, je ne sais pas. En tout cas, faudra, on enquêtera, on saura un jour qui a souhaité cette baisse. On sait que c'est qu'il y a quelqu'un qui a cette volonté. On enquêtera, on le saura et on saura qui a souhaité nous casser.
Vous faites un lien avec les propositions du Rassemblement national de mettre fin au financement de l'audiovisuel public.
On ne fait pas du tout de lien avec les propositions du Rassemblement national parce que on a eu des échanges aussi avec tous les parlementaires. Aujourd'hui, certains parlementaires Rassemblement national comprennent pas non plus cette décision parce qu'il y a des élus de terrain et donc que ça soit des élus LFI, des élus RN, des élus communistes, des élus du PS, LR, démocrates, enfin tout ce qu'on veut sont des élus de territoire, donc ils savent ce qu'on fait au quotidien et donc pour le moment on n'a pas fait du tout de parallèle.
Vous disiez que vous n'étiez pas l'ennemi des radios commerciales. C'est quoi la position des syndicats, de différents syndicats des radios commerciales sur ce projet de loi de finances?
Alors où je vous parle, on a eu beaucoup d'échanges toute cette semaine. Ils nous soutiennent, ils vont sans doute sortir un communiqué. On l'attend. En tout cas, on travaille avec eux parce que sur la convention collective, parce que sur les négociations, je sais pas, par exemple les droits d'auteur, les droits voisins. On discute souvent avec nos compères des radios commerciales. Donc on a un soutien pour le moment qui est pas encore sorti et on espère qu'elles vont prendre position parce que finalement attaque contre le milieu de la radio, c'est pas qu'une attaque contre les radios associatives, c'est le milieu de la radio qui est attaqué, un milieu qui commence à perdre des auditeurs, un milieu qui doit se réformer, un milieu qui doit aller sur le DAB+, donc avec de l'investissement, un milieu qui fait face à une concurrence féroce des grosses plateformes où là c'est totalement dérégulé, donc elles font ce qu'elles veulent, alors que nous on a des régulations sur la pub, les radios commerciales par exemple, elles ont du mal à vendre de plus en plus de pubs. Pourquoi? Parce qu'il y a des mentions légales à la fin des pubs qui sont interminables, alors que le web ne l'a pas, ces mentions légales. En tout cas, c'est tout petit, c'est intégré. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour ce média qui est un média essentiel à la cohésion du territoire, avec un pluralisme de propositions, de radio associative, de radio commerciale qui font un bon travail aussi sur les territoires, de radio de service public. Donc, c'est une vraie attaque contre le secteur de la radio. Donc, je pense que les radios commerciales en ont conscience et on attend donc une prise de position.
Pour votre secteur, l'heure est à la mobilisation. Sylvain Delfaux, je rappelle, vous êtes coprésident de l'association Les Locales et membre du syndicat national des radios libres. C'est quoi les prochaines étapes dans ce domaine-là?
À un moment, on demande aux radios d'écrire aux parlementaires, de faire pression sur les parlementaires, sénateurs, sénatrices et puis bien sûr députés pour qu'il y ait un amendement qui supprime cette baisse et qu'on revienne donc au moins niveau. Et nous, on a même demandé un renforcement parce qu'on nous a encore demandé de faire pas mal d'activités de plus en plus. Il y a aussi des nouvelles radios qui sont arrivées sur les territoires. Donc voilà, la première étape, c'est ça. Et pour le moment, on est à fond mobilisé là-dedans depuis une semaine. C'est effectivement aujourd'hui qu'il faut se battre encore plus qu'hier. L'importance aujourd'hui, c'est vraiment que les parlementaires fassent plier ce gouvernement sur cette ligne budgétaire.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire en pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet. Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Le brassage social, c'est le slogan revendiqué par Tête Haute, entreprise d'insertion du pays nantais qui s'est lancée dans la fabrication de bières locales, bio et solidaires en 2018. 5 ans plus tard, la brasserie compte désormais près de 25 salariés et a ouvert un tiers-lieu surnommé le Tipi, au cellier entre Nantes et Ancenis. Tête Haute a aussi soutenu la création d'un tout nouveau bar-restaurant à Nantes, Mashup.
Je suis Julien Grébi, je suis le directeur de Mashup. C'est situé sur l'île de Nantes, juste derrière la nef des machines de l'île. Et c'est un brewpub, donc un restaurant dans lequel on va brasser de la bière, donc avec une petite brasserie de 500 litres qui est dans le lieu. Et puis aussi la bière, les bières de la brasserie Tête Haute qui a fait naître le projet Mashup, toujours en portant cet enjeu d'insertion, donc d'accompagner les gens qui sont éloignés de l'emploi et de démontrer aussi que l'inemployabilité, ce n'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose qu'on peut abattre par justement l'accompagnement social et collectif. Mashup aujourd'hui c'est une dizaine de salariés dont 4 en insertion par l'activité économique, 90% de nos produits qui sont produits à moins de 100 km du restaurant dans des conditions d'agriculture biologique et ou en transition ou raisonnée. Et Mashup a cette particularité d'être à la fois un lieu de transition pour l'emploi mais aussi d'être un lieu de transition pour la manière dont on pense la restauration aujourd'hui et la manière dont on forme des cuisiniers et des serveurs à l'alimentation de demain. Alors en ce moment, on va travailler un rougail saucisse qui est fait avec une saucisse de la ferme du Bois Suzin et ainsi qu'un risotto avec des petites pleurotes qui sont à la champignonnière du champignon urbain qui est à la Grenotte à 100 mètres d'ici.
Tu veux carte aussi ou pas ? Non, pas carte, merci.
C'est bon ? Trop bien, merci d'être passé.
Si un projet comme Mashup a pu voir le jour, c'est entre autres parce qu'il a bénéficié du soutien d'une banque pas comme les autres, la NEF. Cette coopérative a apporté 37% du financement initial et s'engage elle aussi dans une démarche éthique et locale.
Alors du coup, moi c'est Marine Lemoine et je suis banquière itinérante à la NEF. C'est une banque qu'on dit éthique parce que son objet depuis la création il y a 36 ans maintenant était de faire le lien entre l'épargne des citoyens et citoyennes et des projets ancrés dans la transition écologique, sociétale et environnementale. Plutôt des circuits courts, ça va être plutôt là-dessus, dans le fait de privilégier des projets qui ont cette démarche de pensée locale dans leur fonctionnement.
La NEF compte désormais 48 000 sociétaires et 120 salariés. Depuis sa création en 1986, la coopérative de finances solidaires a prêté près de 1,4 milliard d'euros et soutenu 8 000 projets, dont les célèbres magasins Biocoop, Basket Veja ou Café Éthicable. Dans les Pays de la Loire, la NEF revendique actuellement près de 70 millions d'euros d'encours et soutient des projets aussi divers que l'unité de méthanisation Métamauge dans le Maine-et-Loire, le café associatif 3 francs 6 sous au Pèlerin ou encore des entreprises d'insertion comme Mashup à Nantes.
La NEF soutient une vingtaine de projets à peu près sur les Pays de la Loire. Prioritairement, on est quand même sur la Loire-Atlantique, l'Anjou, Maine-et-Loire et la Vendée. Le montant minimum d'intervention pour la NEF, c'est 15 000 euros. Et en maximum, c'est plusieurs millions d'euros. Le montant moyen, je pense que c'est 150 000. Les épargnants des Pays de la Loire, finalement, leur épargne va aller dans un grand pot national. Donc on n'est pas à l'euro près quand même au niveau local, mais en fait, on a sur le site une vision en direct de ce qui est financé par la NEF. Puis aussi, sur le long terme, la spécificité qu'on peut avoir à la NEF, c'est de mettre en lien les sociétaires et les projets. Là, on va organiser en octobre une rando NEF, donc on va un peu visiter plusieurs sites financés par la NEF, dont Mashup. On va venir manger ensemble avec les sociétaires pour mettre en lien, pour boucler la boucle.
La NEF se prépare désormais à un grand changement d'échelle. La coopérative d'épargnants et de crédits a en effet reçu en septembre l'aval des autorités françaises et européennes pour devenir une banque à part entière. La NEF, qui s'appuyait jusqu'à présent sur le crédit coopératif, lui-même adossé au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, va donc s'émanciper et proposer directement des cartes de crédit et comptes courants aux particuliers ces toutes prochaines années. Et cette alternative bancaire est loin d'être anecdotique. Toujours selon le cabinet Carbone 4, les comptes courants des Français représentent 800 milliards de dollars et ces sommes peuvent être utilisées par les banques pour soutenir des projets d'énergie fossile. Et elles ne s'en privent pas. Entre 2021 et 2023, les banques françaises y ont consacré près de 67 milliards de dollars. Dans ce contexte, la finance éthique s'affirme donc comme l'un des quatre principaux leviers à disposition des individus pour favoriser la transition écologique.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Jet FM.